Ok. Ok, bonjour à tous. S'il vous plaît. Quand vous voulez, hein. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, là? Ouais, ça va? Ok. Donc, rappel de la façon dont ça va fonctionner pour le cours d'aujourd'hui et celui après la semaine des vacances. On boucle aujourd'hui. Finalement, je fais effectivement une section unique pour avoir terminé aujourd'hui. On termine aujourd'hui. L'idée, dans l'idéal, c'est que vous repreniez le cours pendant les vacances. De toute façon, vous l'avez déjà repris à minima pour l'interro. Hein, donc, vous reprenez l'ensemble du cours. Et on se sert de la séance prochaine, c'est ce que je vous avais dit, pour une session de questions qui couvre l'intégralité du cours. Voilà. Quand je dis l'intégralité du cours, ça peut être aussi des rappels méthodaux. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Donc, on peut envisager les choses de manière un peu générique. Mais donc, évidemment, ça n'est utile que si vous avez repris l'ensemble du cours. Si vous ne le faites pas et que vous vous rendez compte après le cours, donc dans 2 semaines, qu'il y a un point que vous n'avez pas compris, il vous restera vos chargés de TD, hein, puisque vous avez des séances qui suivront la fin de l'amphi, mais nous, on ne se voit plus derrière. Donc, on termine aujourd'hui, vous reprenez le cours dans votre coin pour le réviser, et la semaine prochaine, on se sert de ça pour vérifier que c'est à peu près compris pour tout le monde. J'enverrai du coup dans la journée, normalement. Je mettrai sur le... S'il vous plaît. Je mettrai sur eCampus et j'enverrai aux 4 ambassadrices désignées dans la promo l'ensemble des slides de tout le cours. Donc vous aurez un fichier unique avec la totalité des... Un fichier unique avec la totalité des contenus. Les audios, évidemment, et... Je fais la même chose sur eCampus, mais donc comme ça, à minima sur les slides, vous êtes sûr de tout avoir via les 4 qui sont, encore une fois, que je remercie parce que vraiment hyper réactive et c'est très agréable. Donc, on termine. On avait dit un mot sur le rôle du juge dans la recherche des preuves la semaine dernière. Je reprends, parce qu'on l'avait fait brièvement, donc je reprends pour que ce soit clair pour tout le monde. On avait expliqué, vous vous souvenez, le juge dans le procès civil, il a un rôle passif. En ce qui concerne la recherche des preuves, évidemment, pas dans la décision, mais dans la recherche des preuves, il reste en dehors de la problématique. C'est aux parties de rapporter les preuves qui sont invoquées de chaque côté. Et c'est donc ce qu'on appelle le système accusatoire. Les parties dirigent l'instance, le juge reste en retrait et ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas la même chose par définition dans le procès pénal, puisque dans le procès pénal, on repose sur un système inquisitoire cette fois-ci, donc encore une fois ça vient de l'inquisition en latin. Inquisition en latin ça veut dire l'enquête, donc c'est le juge qui est pour le coup au centre de la procédure, y compris dans la recherche et le fait de collecter les preuves. Voilà. Et vous connaissez notamment la figure du juge d'instruction, on en parle beaucoup notamment dans la presse généraliste, c'est lui qui fait ce gros travail central premier de collecte des informations, des éléments de preuve, quels qu'ils soient, etc. Mais donc ça, c'est en quelque sorte l'apanage du pénal. Ceci étant dit, c'est quand même partagé, au moins en partie, par le procès administratif. Sur le procès administratif, on est aussi, même s'il présente quelques particularités, mais que vous approfondirez en droit administratif l'an prochain, en partie sur un système acquisitoire. Et on avait terminé en expliquant qu'il faut faire attention. Ça, c'est le distinguo classique accusatoire-inquisitoire entre civil et pénal, un peu administratif, mais que dans le droit de la procédure moderne, on voit émerger, y compris au civil, des figures de juges qui sont, alors c'est pas tout à fait un système inquisitoire, mais qui ont de plus en plus de prérogatives qui leur permettent de jouer un rôle dans la recherche, dans le fait de collecter des preuves. Et on avait donné notamment l'exemple du juge de la mise en état, qui est donc un juge civil, hein, et qui, lui, a un certain nombre de prérogatives qui lui permettent, notamment dans les hypothèses d'audition des parties, etc., qui lui permettent qui lui permettent, pardon, d'avoir un rôle un peu plus actif en ce qui concerne la recherche des preuves. Donc là encore, mais vous avez l'habitude maintenant, le distinguo n'est pas un absolu. Et on a des hypothèses aujourd'hui de juges civils où le système est plus complètement accusatoire, donc où le juge est plus complètement passif, même quand il est civil. On en a terminé donc sur le premier volet de la réflexion qui concerne effectivement la façon dont il faut rapporter la preuve, le rôle des parties, le rôle du juge. Une fois qu'on a vu ça, évidemment, la question... La question essentielle, c'est celle... Enfin, essentielle, elle va de pair avec la première, hein, mais la question la plus technique, en quelque sorte, c'est celle du panorama des preuves. Donc, ça fait l'objet d'un paragraphe 2, hein, les modes de preuve. Une fois qu'on a expliqué les grandes règles de fonctionnement du système probatoire, au civil, au pénal, nous, on s'est concentré là-dessus, essentiellement, il faut évidemment essayer de déterminer... quelles sont les modalités de preuve possibles ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rapporter une preuve dans le cadre d'un contentieux, devant un juge ? Le principe, on va y revenir dans quelques instants, mais le principe, c'est de distinguer selon qu'on cherche à prouver un acte ou un fait juridique. Et on retrouve notre idée, donc, que dans le cours d'intro, il y a une espèce de logique de cercle, et que pour comprendre en réalité le panorama des preuves qu'on va voir maintenant, il vous faut nécessairement aussi le chapitre précédent, qui vous permet de distinguer entre l'acte et le fait juridique, parce que précisément, le système probatoire est différent selon que vous cherchez à prouver un acte ou un fait juridique. Si vous ne faites pas la différence entre les deux, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le panorama des preuves. Je vais revenir dans le détail sur ces règles-là dans quelques instants, mais je les annonce en intro. Si vous voulez prouver un fait juridique, la preuve peut se faire par ce qu'on appelle par tout moyen. C'est l'expression consacrée. La preuve est libre, elle se fait par tout moyen, donc par n'importe quel mode de preuve, quand il s'agit de prouver un fait juridique. Si au contraire vous cherchez à prouver, cette fois-ci non pas un fait, mais un acte juridique, alors la preuve n'est plus libre. C'est un système de preuve par écrit. Dès lors l'acte juridique, pardon, que vous cherchez à prouver a une valeur supérieure à 1 500 €. Si l'acte juridique que vous cherchez à prouver devant le juge a une valeur, représente un montant supérieur à 1 500 €, alors il faut une preuve par écrit. Ce qui veut dire, a contrario, là on peut mener une réflexion a contrario, si c'est un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 €, alors la preuve redevient libre. En quelque sorte. Donc voilà le distinguo à faire. Encore une fois, je vais revenir dessus dans quelques instants, mais c'est l'idée qui va guider le panorama de preuves, comprendre comment ça se répartit. Un système de preuves libres, donc une preuve par tout moyen, pour les faits juridiques et pour les actes juridiques d'un montant inférieur à 1 500 €, et un système qu'on appelle de preuves préconstituées, donc un système de preuves par écrit, pour les actes juridiques d'un montant supérieur à 1 500 €. Pourquoi est-ce qu'on parle de système de preuve préconstitué quand on parle de la preuve par écrit ? Bah parce que, comme son nom l'indique, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut vous ménager en amont. C'est pour ça qu'on parle de préconstitution, d'une constitution de la preuve avant un litige. Il faut constituer un écrit, il faut avoir un écrit. Et cet écrit-là, le cas échéant, sera utile dans un système probatoire, dans une démonstration devant le juge, dans l'hypothèse d'un contentieux qui, ça se trouve, n'arrivera jamais aussi. Hein. Mais vous aurez préconstitué la preuve dans l'hypothèse d'un acte juridique supérieur à 1 500 €. Une fois qu'on a exposé ça brièvement, encore une fois, avant de rentrer dans le détail tout à l'heure, mais on va avoir deux temps dans la réflexion qui vont nous occuper aujourd'hui. D'abord, le panorama des modes de preuve. On va expliquer quels sont les types de preuves possibles. Il y en a un certain nombre que vous connaissez déjà, dont vous avez déjà entendu parler. On va expliquer comment ça fonctionne en droit, hein. Donc le panorama des modes de preuve. Et ensuite, on abordera évidemment la question de l'admissibilité des modes de preuve. Toutes les preuves ne sont pas admissibles. Toutes les preuves ne sont pas susceptibles d'être présentées devant un juge. Donc d'abord, un grand A sur le panorama des preuves. Et on va faire le distinguo, là. C'est pour ça que je vous ai présenté en introduction brièvement la différence à faire selon que vous prouvez un acte ou un fait juridique. On va distinguer ici les preuves écrites des preuves non écrites. Il y a deux catégories de preuves, en fait. celles qui ont été préconstituées, donc les écrits, et les autres types de preuves qui sont donc ce qu'on appelle des preuves non écrites. Donc un petit 1 d'abord sur les preuves non écrites, et à l'intérieur des preuves non écrites, il faut distinguer entre les preuves écrites parfaites et les preuves écrites imparfaites. Là encore, je ne l'ai pas fait ici, mais vous voyez comment on fonctionne avec les slides. Faites-le pour vous. Faites des schémas. Vous savez que vous avez deux grandes catégories, les preuves écrites, les preuves non écrites. Vous faites vos deux grandes cases. À l'intérieur des cases des preuves non écrites, vous subdivisez en deux lots, les preuves écrites parfaites, les preuves écrites imparfaites. Et vous rentrez à l'intérieur l'ensemble des catégories qu'on va voir maintenant. Vraiment, je vous recommande de fonctionner comme ça. Alors, les preuves écrites. On va en reparler dans quelques instants, mais il y a un élément à avoir à l'esprit tout de suite, c'est que les copies ont depuis 2000 maintenant, donc ça fait un moment, hein, la même force probante, on appelle ça comme ça, la même force probante que les originaux. Et par ailleurs, l'écrit électronique a la même valeur que l'écrit papier. Là encore, depuis la loi de 2000. Vous, ça vous paraît évident parce que la loi de 2000, elle est antérieure à votre naissance. Donc, vous avez été immergé dans un environnement où on a eu de plus en plus de numérique au fur et à mesure de votre vie et où aujourd'hui, c'est assez naturel pour vous d'avoir une preuve dématérialisée. Donc un écrit, mais qui n'est pas sur support papier, qui est dématérialisé. Il y a 25-30 ans, ce n'était pas si évident que ça. Et on va voir notamment quand on va parler de la question des copies, ce n'était pas évident non plus. On se méfiait un peu de l'électronique, c'est venu. Et aujourd'hui, évidemment, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller chez un notaire, même pour les actes notariés. En fait, maintenant, dans l'essentiel, hein, devant l'essentiel des notaires, vous signez de manière électronique. Si certains ont ouvert un compte en banque, etc., vous avez bien vu que en fait, toutes ces procédures-là, aujourd'hui, elles sont dématérialisées. Il a fallu une loi pour poser ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne fait pas un cours de commerce électronique, mais ce qu'on appelle un principe de l'équivalent fonctionnel, c'est-à-dire de reconnaître que, en termes de fonction, en termes de raison d'être, l'électronique, le numérique, et donc pour ce qui nous intéresse, nous, ici, l'écrit numérique, a la même valeur, est équivalent à l'écrit papier. Voilà. Juridiquement, avant la loi de 2000, qui transpose une directive, hein, ça vient du droit européen, mais ce n'est pas d'évidence. À partir de 2000, ça s'intègre, et aujourd'hui, évidemment, on ne se pose plus la question, si ce n'est des questions de sécurité numérique, mais c'est un autre débat. Donc voilà. Je vous dis donc, il faut distinguer les preuves écrites parfaites des preuves écrites imparfaites. Des preuves écrites parfaites, donc ça fait l'objet d'un petit A. Des preuves écrites parfaites, vous en avez deux. Il y a deux grandes catégories de preuves écrites parfaites. L'acte authentique, l'acte sous signature privée, qu'on appelait antérieurement l'acte sous sein privé. Ça s'écrivait S-E-I-N-G, évidemment. C'est l'ancienne terminologie de la signature. Le sein au sens d'une langue qui est maintenant un peu surannée, c'est pour ça qu'on a changé la terminologie, mais si vous travaillez sur d'anciennes sources, vous allez trouver l'acte sous sein privé, S-E-I-N-G, encore une fois, c'est la même terminologie, on a changé en 2016, depuis 2016, on parle d'acte sous signature privée, le terme est un peu plus contemporain, mais c'est la même chose, la définition en elle-même n'a pas changé. Alors, avant de rentrer dans la catégorie d'abord de l'acte authentique, puis de l'acte sous signature privée, quelques mots un peu génériques. Donc, quand vous êtes dans les preuves écrites parfaites, l'idée, encore une fois, c'est que vous avez préconstitué avant la survenance hypothétique d'un contentieux, parce que donc, à partir du moment où c'est préconstitué, ça veut dire que c'est constitué avant le litige. Donc, ça veut dire aussi qu'au moment où vous constituez cet écrit, vous ne savez pas s'il va y avoir un litige. Voilà. C'est pour ça que c'est une préconstitution. On anticipe sur la survenance d'un litige éventuel, en constituant un écrit. Et donc, ces preuves-là, ces deux catégories de preuves-là, elles sont spécialement constituées en amont, et elles répondent, c'est ça l'enjeu aussi, à des règles qui sont fixées par le législateur, précisément. Et donc, naturellement, comme la logique l'impose en quelque sorte, leur fonction, c'est de prouver l'existence et le contenu d'actes juridiques. La raison d'être d'un acte authentique, d'un acte sous signature privée, c'est de constater l'existence, la réalité d'un acte juridique et son contenu. Voilà. Il y a bien eu une vente, cette vente, elle portait sur ça pour un montant de temps, etc. Et donc, je vous dis, une fois qu'on a précisé ce propos un peu global, il y a deux grandes catégories qui ont une valeur différente. La valeur la plus importante dans les preuves écrites parfaites, c'est l'acte authentique. On va le voir dans un instant, il n'y a rien au-dessus. Et en dessous, en termes de force probante, donc de valeur probatoire, en quelque sorte, la force probante la plus importante, l'élément de preuve qui aura la force de conviction la plus grande à l'égard du juge, c'est l'acte authentique. En dessous, vous allez trouver l'acte sous signature privée. Donc, d'abord, l'acte authentique. Vous avez la définition de l'article 1369, reproduite sur la slide, c'est pas la peine de la noter. L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Comme d'hab, la définition, si vous me l'apprenez par cœur, ça fait juriste, c'est très bien, vous avez le vocabulaire technique, j'en ai pas un sur 30 qui la comprend en l'état. Et c'est normal. On essaye donc de la détricoter. L'apprentissage de la terminologie, il est essentiel, mais il vient ensuite. Ne commencez pas par l'apprentissage par cœur, ça ne sert à rien. Comprenez le sens de la disposition et vous verrez que vous apprendrez bien plus facilement le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, une précision, vous savez, dans les tableaux de concordance, hein, la numérotation à partir de 2016, l'ordonnance de 2016 dont on parle depuis le début du cours, la numérotation dans le Code civil, c'est l'article 1369. Antérieurement, c'était l'article 1317. Donc, si vous regardez des décisions de la Cour de cassation antérieures à l'ordonnance, qui tranchent sous l'empire du droit antérieur, et que vous trouvez une référence à l'article 1317, c'est en fait cet article-là. Une précision avant de rentrer dans les détails et d'expliciter l'article 1369. Cet acte authentique, je vous l'ai dit en introduction, il est susceptible d'être dressé, on appelle ça comme ça, donc d'être établi, également sur support électronique. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction selon qu'il est écrit ou numérique. Alors évidemment, il y a des conditions sur lesquelles je ne reviens pas. Vous verrez ça en commerce électronique en quatrième année si vous en faites, hein, mais je ne reviens pas dans le détail sur les conditions. Mais il y a des conditions qui sont fixées par un décret qui a été pris en Conseil d'État, des conditions de fiabilité, de sécurité, etc., dans la conservation, dans l'établissement d'un acte authentique établi sur support numérique. Mais aujourd'hui, l'essentiel des actes authentiques, encore une fois, ils ne sont pas dressés sur papier, ils sont dressés sur support électronique. Alors, il en reste évidemment sur papier, hein. Et il y a parfois un doublon, à la fois sur support électronique et sur papier, mais il y en a aussi de plus en plus aujourd'hui sur support électronique, notamment parce que c'est extrêmement pratique. Ça va plus vite, donc naturellement, il n'y a pas de difficulté à établir un acte authentique, encore une fois, sur la dimension électronique, de faire un acte authentique électronique. Alors, une fois qu'on a précisé ça, les conditions de l'article 1369, pardon, première condition, qui sont encore une fois des conditions de validité de l'acte. Pour être reconnu comme un acte authentique, il faut les conditions qu'on va voir maintenant. La première condition, elle concerne la qualité du rédacteur, c'est-à-dire les caractéristiques de la personne qui va établir l'acte. Il faut, nous dit le texte, un officier public. Il faut que l'acte authentique, l'acte pour être authentique, doit être établi par un officier public. Exemple, un notaire, un huissier de justice, etc. Un mandataire de justice, par exemple, etc. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire rédiger un acte authentique par n'importe qui. Voilà. L'idée centrale, c'est ça. On va voir dans un instant que l'acte sous signature privée, il n'y a pas d'exigence particulière. Sur l'acte authentique, évidemment, on est tenu par la sollicitation d'un officier public, donc qui est en quelque sorte une incarnation de l'État dans ce cas-là. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'officier public. Ensuite, évidemment, il faut une compétence de cet officier public et cette compétence, elle se dédouble. Ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, le dédoublement de la compétence ? Il faut que la compétence soit à la fois matérielle et territoriale. D'abord, sur la compétence matérielle, c'est ce qu'on appelle la compétence d'attribution. Qu'est-ce que c'est que cette compétence d'attribution ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous adresser indifféremment à n'importe quel officier public. Chacun a une compétence pour des questions particulières. Par exemple, si vous voulez faire établir un acte de naissance, vous venez de devenir parent, vous avez accouché ou votre conjoint a accouché, la personne avec laquelle vous êtes a accouché, vous voulez faire établir l'acte de naissance. Vous n'allez pas vous adresser à un commissaire de justice. Alors, commissaire de justice, vous savez, ça a remplacé les huissiers aujourd'hui. Hein. Vous ne vous adressez pas à un commissaire de justice, ça n'aurait aucun sens. Vous allez vous adresser au maire ou aux adjoints du maire. Vous allez vous tourner vers la mairie, c'est la mairie qui est compétente. Vous savez que maintenant, ils ont des antennes à l'intérieur des hôpitaux, des établissements où les accouchements ont lieu. Donc, vous vous adressez à la mairie, au maire, à ses adjoints, et c'est eux qui sont compétents pour établir un acte de naissance. De la même manière, si vous voulez signifier un acte de procédure dans le cadre d'un contentieux, ben vous n'allez pas vous adresser au maire. Vous allez aller chercher ce qui antérieurement était l'huissier de justice, ce qui désormais est appelé le commissaire de justice, et c'est lui qui a la compétence d'attribution, c'est-à-dire qui est matériellement compétent pour intervenir. La compétence matérielle, c'est ça. Qui est compétent pour faire quoi ? Chaque officier public a des compétences spécifiques. Si vous voulez obtenir ce qu'on appelle la minute d'une décision de justice, c'est-à-dire l'original du jugement qui a été signé par le juge, bah vous ne vous adressez pas à un notaire, vous vous adressez à un greffier. Voilà. La compétence matérielle, c'est ça. Qui est compétent pour faire quoi et à qui je m'adresse au regard de la question que je pose. Donc ça, c'est le premier volet de la compétence. Le deuxième volet, c'est la compétence non plus d'un point de vue matériel, donc encore une fois en fonction de la matière du domaine concerné, mais de la compétence territoriale. Ok, j'ai bien compris que pour obtenir la minute d'un jugement, il ne faut pas que je m'adresse à une mairie, mais il faut que je m'adresse au greffier. Quel greffier ? Le greffier du tribunal judiciaire de Bastia, de Paris, de Roubaix, de Marseille, etc. La compétence territoriale, c'est ça. Une fois que vous avez identifié la compétence matérielle, c'est-à-dire est-ce qu'il me faut un adjoint de la mairie, un commissaire de justice, un notaire, etc. Ok, à quel endroit ? Des notaires, vous en avez des milliers, des greffiers, vous en avez des milliers, etc. Où est-ce que, sur le territoire de France, ma question a vocation à s'ancrer territorialement ? Donc, sur quel territoire est installé l'officier public que je dois saisir ? Sur quel endroit du territoire est installé l'officier public qui est compétent pour établir l'acte authentique ? Et c'est pour ça que je vous disais il y a un instant que la compétence, elle se dédouble. Elle a deux dimensions. Elle est à la fois matérielle, donc en fonction de la question concernée, et territoriale, en fonction de l'endroit de la compétence. Vous avez, en fait, par officier public, un champ territorial de compétence. Voilà. Et vous vous déterminez comme ça. Donc, à ce stade-là, on sait qu'on a trois conditions qui se combinent. Il nous faut un officier public qui soit matériellement compétent, donc pas un huissier quand il nous faut un notaire, etc. Donc un officier public matériellement compétent et territorialement compétent. Et enfin, la dernière condition pour qui est acte authentique, c'est que cet officier public matériellement et territorialement compétent, il ait établi l'acte en fonction de ce qu'on appelle les solennités requises, c'est-à-dire, en d'autres termes, les formalités qui sont exigées et qui vont varier d'un acte à l'autre. Ça dépend ce que vous voulez faire constater. Mais en général, il faut, de toute façon, ça pour le coup à chaque fois, la signature de l'officier public sur l'acte, la mention de la date, le nom des parties, etc. Il y a un certain nombre d'exigences de forme, donc d'éléments qui doivent nécessairement se retrouver dans l'acte. Il faut que l'ensemble de ces formalités, dans un vocabulaire un peu plus technique, de ces solennités, soient respectées pour que l'acte soit considéré comme authentique. Lorsque l'ensemble de ces conditions, donc 3, en réalité 4, puisqu'encore une fois, la condition de la compétence, elle se dédouble, quand l'ensemble de ces conditions-là sont respectées, alors, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, l'acte authentique est le mode de preuve qui a la force probante, la valeur probatoire la plus forte. Dans tout le panorama de preuves, vous ne trouverez rien de plus fort en termes de valeur de preuve que l'acte authentique. Étymologiquement, comme d'habitude, je vous gonfle avec l'étymologie, mais c'est parce que ça vous aide à comprendre ce qu'on enseigne. Quand on parle d'acte authentique, d'un point de vue étymologique, ça se traduit par l'acte qui a une autorité qui n'est pas susceptible d'être remise en doute. Voilà. Sur l'origine latine du terme, c'est ça que ça veut dire. L'acte authentique, c'est celui qui, a priori, n'a aucune raison d'être remis en question. Donc, ça explique que ce soit celui qui est la valeur probatoire, la force probante la plus importante. Celui-là, normalement, on ne le remet pas en cause. Pourquoi est-ce que je dis normalement ? Parce qu'il y a une exception qui est la possibilité de faire inscrire l'acte en faux. C'est-à-dire de démontrer que soit l'officier public a en réalité pas établi l'acte et pas signé, et que ça a été fait, c'est un montage en réalité, soit que ce qui est dit dans l'acte n'est pas exact. Les inscriptions en faux, c'est un délit pénal. Donc, quand vous invoquez le fait que l'acte authentique qui est présenté par la partie adverse est un faux, vous vous dirigez vers le terrain pénal, c'est pas rien. S'il n'y a pas de possibilité de faire inscrire en faux, alors le contenu de l'acte authentique est tenu pour exact par le juge. La seule porte de sortie, c'est l'inscription en faux avec ce qu'elle amène, c'est-à-dire, encore une fois, l'hypothèse d'un délit pénal, notamment commis par un officier public. Donc, ce n'est pas juste un renversement de la preuve. On va sur le terrain pénal. En dehors de cette seule hypothèse-là, pleine force probante pour l'acte authentique. Ça, c'est le premier. En dessous de l'acte authentique, vous trouvez donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'acte sous signature privée. Encore une fois, c'est une appellation qu'on a à partir de 2016, de la réforme par ordonnance en 2016. Antérieurement à ça, vous trouviez l'expression qu'on trouve encore parfois d'acte sous sein privé. Comme son nom l'indique là encore, l'acte sous signature privée, c'est l'acte qui est rédigé et signé par les parties. Entre guillemets, ne l'écrivez pas comme ça, mais entre guillemets, en privé, entre elles. Elles ont sollicité personne, là. Elles se sont débrouillées entre elles et elles ont établi entre elles l'acte qui constate l'existence, la valeur de l'acte juridique qui est regardé. Les termes, l'analyse des termes vous permet de ne pas vous planter. Un acte authentique, avec ce qu'il implique de valeur étymologiquement, il est établi par un officier public. L'acte sous signature privée, il est établi par les parties entre elles, sans recours à un tiers. Voilà. Ce qui amène aussi à une règle importante. Si l'acte authentique qu'on vient d'étudier est irrégulier, qu'il y a une irrégularité dans l'acte authentique, par exemple parce qu'il va manquer la signature du notaire, de l'officier public, peu importe. Cet acte-là, qui est donc un acte authentique irrégulier, qui ne remplit pas une des conditions, peut éventuellement valoir comme acte sous signature privée. Ça veut dire qu'un acte authentique irrégulier, il ne perd pas forcément toute valeur. Si vous êtes face à un acte authentique irrégulier, vous n'êtes pas tenu nécessairement de vous dire « bon, bah, du coup, il ne me sert plus à rien ». Un acte authentique irrégulier, en fonction de l'irrégularité qui se présente, il peut redescendre d'un niveau dans la hiérarchie des preuves, en quelque sorte, et valoir non plus comme acte authentique, parce qu'encore une fois, par exemple, il manque la signature de l'officier public, mais redescendre d'un échelon et valoir comme acte sous signature privée. C'est assez logique comme démarche. Ça a été établi, l'acte authentique, il a été établi le cas échéant, si on est avec un notaire, entre les parties avec le recours au notaire. S'il manque sa signature, ben on va considérer que ça a été établi entre les parties, à elle seule, et que le notaire n'est pas intervenu. Il y a des exceptions, évidemment, à ce cas-là, ce n'est pas un absolu, mais sachez que ça existe quand même, que c'est une piste possible. C'est l'article 1370 qui va dans ce sens-là. La condition, évidemment, pour que l'acte authentique descende dans la catégorie de l'acte sous signature privée, cette condition-là, vous l'avez peut-être comprise d'instinct, c'est qu'il y ait à minima la signature des parties sur cet acte authentique. Voilà. Il a beau être irrégulier, par exemple, parce qu'il manque la signature de l'officier public, il faut au moins qu'il y ait la signature des parties dessus. Et s'il y a la signature des parties, on peut le considérer comme un acte sous signature privée, sous-entendu, établi et signé par les parties. Qui est paumé à ce stade-là? Pour qui est-ce que ça va? Ok, super. En principe, comme son nom l'indique, l'acte sous signature privée, il n'impose qu'une seule condition de validité, c'est la signature des parties, d'où son nom. Voilà. Il n'y a pas de condition de validité autre, donc vous voyez que c'est moins exigeant que ce qu'on a vu pour l'acte authentique. La condition centrale, sauf exception de la condition unique, c'est la signature des deux parties. Mais pour certains actes, on va exiger des formalités particulières. C'est notamment le sens de l'article 1375. L'article 1375 vous dit, si l'acte sous signature privée constate un contrat synalagmatique, dont vous vous souvenez, parenthèse, le contrat synalagmatique, c'est celui où il y a des obligations réciproques qui sont souscrites par les deux parties. Chacun s'engage à l'égard de l'autre. C'est l'exemple du contrat de vente, entre autres. On peut donner des dizaines d'exemples, mais c'est notamment l'exemple du contrat de vente. Si l'acte sous signature privée, il vient constater un contrat synalagmatique, alors il faut établir autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Donc, si vous êtes dans un contrat synalagmatique avec deux parties, deux contractants, vous établissez deux originaux. Si c'est un contrat synalagmatique avec trois parties, vous établissez trois originaux, etc. Exemple de contrat synalagmatique avec trois parties, un contrat de bail avec une coloc. Vous avez le bailleur, celui qui va mettre à disposition le bien immobilier, et vous avez les locataires qui s'engagent donc ensemble, et là vous avez un contrat qui engage plus de deux parties. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous donner une illustration. Bon, il faut savoir aussi que cette idée d'exiger autant d'originaux qu'il y a de parties, elle est quand même un peu en recul désormais avec la version numérique. En fait, la version numérique, vous établissez une version numérique et vous l'envoyez à autant de parties qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Mais vous comprenez bien que autant ça a un sens sur la version papier, éventuellement manuscrite. Mais sur la version papier physique, d'établir quatre éléments originaux s'il y a quatre personnes qui ont un intérêt distinct, autant pour le coup, sur la version numérique, c'est très très discutable. Voilà. Vous n'avez pas quatre documents numériques différents. Vous établissez le même document et le cas échéant, après vous en sortez autant de copies. Physique si vous voulez, numérique au surplus. L'approche numérique, elle change un peu les choses. Mais il faut savoir ça, effectivement, le contrat synalagmatique, la présence d'un contrat synalagmatique, elle change un peu les choses sur l'aspect probatoire. Ensuite, il y a une autre condition supplémentaire qui peut venir, et c'est la condition de 1376, cette fois-ci, l'article 1376. Cet article 1376, il vous dit que... s'il y a une partie qui s'engage à payer une somme d'argent ou à livrer un bien fongible, il faut la mention soit de la somme, soit de la quantité, en chiffres et en lettres. Donc vous vous engagez à payer une somme d'argent de 3 700 €, il faut que ce soit précisé dans l'acte sous signature privée, en chiffres et en lettres. C'est un peu la même chose. Alors, on en utilise de moins en moins. Je ne sais même pas si vous en utilisez, vous. Mais si certains font encore des chèques, il faut aussi une mention en chiffres et en lettres. Sur un chèque, quand vous établissez un chèque, pardon, il faut préciser la somme à la fois en chiffres et en lettres. Et en cas de différence entre les deux, c'est-à-dire si ce n'est pas le même montant, si en chiffres, vous avez écrit 3008 et qu'en lettres, il y a écrit 3007, c'est la somme écrite en lettres qui prévaudra. On retiendra, en cas de dissension, de différence entre les deux, si ce n'est pas la même somme qui est écrite, on retiendra la somme écrite en toutes lettres. Une fois qu'on a précisé tout ça, quelle est la force probante de l'acte sous signature privée, c'est-à-dire, encore une fois, quelle est sa valeur probatoire? Qu'est-ce que vaut, en termes de force de preuve, l'acte sous signature privée? Eh bien, elle est inférieure, cette force probante, à l'acte authentique. Et donc, l'acte authentique, il ne fait pas foi jusqu'à inscription en faux, comme on l'a vu pour l'acte sous signature privée, il ne fait pas foi jusqu'à inscription en faux, comme pour l'acte authentique, il fait foi jusqu'à preuve contraire. Je vais reprendre. L'acte authentique, on a dit qu'il faisait foi jusqu'à inscription en faux, c'est-à-dire, si je schématise très largement, le seul moyen de faire tomber la force probante de l'acte authentique, c'est d'aller sur le terrain pénal de l'inscription en faux. L'acte sous signature privée, il fait foi jusqu'à ce qu'on amène une preuve contraire. Une preuve qui va faire tomber le contenu, l'existence éventuellement, de l'acte sous signature privée. Donc on voit bien que la valeur est moindre. Là, il y a plus de portes de sortie, si on reprend notre métaphore. Sur l'acte authentique, la seule porte de sortie, c'est l'inscription en faux. Sur l'acte sous signature privée, c'est la preuve contraire. C'est relativement logique, hein. Encore une fois, essayez de penser à chaque fois la raison d'être des règles. L'acte authentique, on a sollicité un officier public. Donc évidemment qu'on lui accorde une confiance supérieure. Il y a un tiers qui est intervenu dans l'acte, un tiers qui est une émanation de la puissance publique et qui est venu en quelque sorte, c'est métaphorique évidemment, mais mettre son cachet. Voilà. Donner un assentiment à l'existence, à la valeur, au contenu de l'acte reconnu. Donc il y a une valeur bien plus grande. L'acte sous signature privée, comme son nom l'indique, il est entre les parties seulement. Donc il y a moins de raisons de lui accorder une valeur absolue. On lui accorde une valeur importante, c'est une preuve écrite parfaite, c'est quand même une place importante dans la hiérarchie des preuves. Mais en fait, les parties ont pu se tromper, en tout cas, elles ont pu se tromper plus facilement, ou ne l'écrivez pas comme ça, évidemment, mais au moins pour une des deux magouillées, il y a peut-être des choses moins claires, c'est moins transparent qu'avec l'intervention d'un officier public, et donc la force probante est évidemment inférieure. Il faut ajouter une catégorie un peu particulière que j'aborde pas de façon très très développée, mais savoir juste que ça existe, une catégorie intermédiaire qui est l'acte qui est contresigné par un avocat. Parfois, les parties peuvent faire contresigner l'acte sous signature privée par un avocat. Alors, on lui donnera une valeur probatoire un peu plus grande que l'acte sous signature privée. Pour autant, ça n'est pas un acte authentique parce que, rappel, et ça écrivez-le en gros, l'avocat n'est pas un officier public. L'avocat n'est pas une émanation de l'État. Donc, à partir du moment où il est intervenu, on va considérer que l'acte sous signature privée contresigné par l'avocat, il a une valeur probatoire un peu plus importante que l'acte sous signature privée classique. Pour autant, puisque l'avocat n'est pas un officier public, il ne peut pas avoir la valeur d'un acte authentique. Voilà. Et enfin, évidemment, le dernier point, on fera la pause ensuite, le dernier point absolument essentiel, c'est la question de la copie. Vous avez l'article 1379 au tableau. La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge, néanmoins est réputée fiable. La copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. L'essor des technologies numériques, ça a profondément modifié le droit de la preuve. Encore une fois, vous vous rendez moins compte parce que vous êtes immergé dans cet univers-là, mais en 25 ans, la preuve numérique, la preuve électronique, elle a considérablement bougé un certain nombre de règles. Avant, la copie n'avait purement et simplement pas de force probante, à moins d'être signée de manière manuscrite, pas une copie de la signature, hein, à moins d'avoir été signée par les parties. on se méfiait considérablement des copies antérieurement. Et quand elles étaient reconnues, elles étaient dans les preuves écrites imparfaites. Aujourd'hui, l'essor des technologies fait que la copie, et notamment la copie numérique, elle est plus fiable, et donc on donne une valeur à la copie, notamment numérique, équivalente à celle de l'original, dès lors qu'elle est fiable. Et c'est ce que vous dit le législateur, c'est logique. La fiabilité, elle s'apprécie au cas par cas. On ne peut pas dire, alors quand c'est comme ça, c'est fiable, quand c'est pas comme ça, c'est pas fiable. Il y a des éléments qui sont donnés par décret, des indices pour déterminer la fiabilité ou l'absence de fiabilité. Mais c'est ce qu'on appelle de l'appréciation in concreto par le juge au cas par cas. Le juge va regarder si la copie apparaît fiable. Si elle apparaît fiable, elle a la même valeur que l'original. Et notamment, évidemment, quand elle est transmise directement par un office notarial, etc., on va avoir une présomption, vous connaissez le terme maintenant, une présomption de fiabilité. On va considérer que dans un certain nombre d'hypothèses, il y a lieu de présumer que la copie est fiable. À charge pour l'autre partie qui n'est pas d'accord de faire tomber cette présomption de fiabilité en montrant que la copie n'est pas exacte. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Bon, on fait une pause 10 minutes et on reprend.